Le quartier Saint-Esprit à Bayonne, du bourg à la ville, de la ville au quartier, voici la seconde et dernière partie de la conférence de Pierre Hourmat de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. Une conférence enregistrée dans le cadre de l'Université du temps libre de Bayonne dans les années 2000. Le quartier Saint-Esprit à Bayonne, du bourg à la ville au quartier, voici la seconde et dernière partie de la conférence de Pierre Hourmat.
Donc, la citadelle, l'installation de la communauté juive, l'essor économique dans cet esprit au XVIIIe a été donc, par conséquent remarquable. Madame Ponté, dans son ouvrage, considère qu'il est plus remarquable que celui de Bayonne pendant cette même période. Mais il demeure qu'à la fin du siècle, 1787, nous avons à notre disposition un célèbre mémoire des Bayonnais, dit des Bayonnais, qui répond à un mémoire des habitants du bourg de Saint-Esprit. Et dans ce mémoire de 1787, deux ans avant la Révolution, on se rend compte que les habitants du Saint-Esprit, ou du moins ceux qui les mènent, les meneurs des habitants, qui ont fait la pétition, une pétition, demandent le droit d'avoir une municipalité. Ce qui veut dire que le bourg demande à devenir une ville. Et une commune, une municipalité à sa disposition. Alors il est très intéressant de lire la réponse des Bayonnais dans le mémoire de 1787, deux ans avant la Révolution, disant aux habitants de cet esprit, votre démarche ne s'explique que pour ne plus payer les impôts à Bayonne. Deuxièmement, elle n'est pas nécessaire parce que vous n'avez qu'une simple fontaine, quelques abreuvoirs, quelques rues à administrer, une voirie très simple, donc par conséquent, vous n'avez pas besoin d'une municipalité, un syndic délégué par la ville de Bayonne suffit à ce travail, à cette administration. Et par conséquent, on rejette également, oui, le troisième argument, c'est que les Bayonnais prétendent que si un jour on crée une municipalité à cet esprit, une ville avec sa municipalité, eh bien on ne trouvera pas de gens suffisamment compétents et de gens ayant la consistance sociale suffisante pour être maire de la dite ville. Et de citer des exemples, que ferons-nous si nous avons, disaient les Bayonnais, à côté de nous, à côté de notre ville, une ville dirigée par un maire qui sera boulanger ou maréchal ferrant ou autre. Et le document devient plus intéressant d'ailleurs quand il prétend que sur les 56 pétitionnaires qui déjà pétitionnent cet esprit, on relève tout simplement 46 artisans très modestes et il n'y a que 10 personnes qui, à la rigueur, auraient une consistance sociale suffisante pour être maire de cet esprit. Ceci a lieu en 1787, deux ans avant la Révolution. Et 89, la Révolution arrive, et vous savez déjà qu'en 90, Saint-Esprit devient ville du département des Landes, ville de quelques 5000 habitants à peu près, dont nous avons 10 200 israélites. Et cette ville indépendante devient partie de l'arrondissement de Dax et du département des Landes. L'Adour devenant limite entre les deux départements, Basse-Pyrénées à ce moment-là et Landes. On disait même, il y a des documents où l'on parle de frontières naturelles nécessaires entre deux départements, ce qui montre qu'au début, évidemment, on avait une notion particulière du département. Bon, tout ceci intervient pendant 1790. Alors, cette ville va avoir sa municipalité, son conseil municipal. L'un des faits les plus importants pour la vie politique de la nouvelle commune, c'est de voir les Juifs du Saint-Esprit devenir citoyens à part entière dès 1790, avant les Juifs de l'Alsace. C'est de les voir participer effectivement à la vie municipale du temps. Je prends quand même une minute pour dire qu'au début, quand même, il y a eu quelques réticences de la part des bourgeois bayonnais. Les premières élections ont eu lieu en février 90 pour les premières municipalités révolutionnaires. Et les, négociable du Saint-Esprit, ont trouvé moyen de repousser la participation des Juifs à l'élection du premier conseil municipal, en prétendant que la loi qui était parue en janvier 90, un mois avant l'élection de février, cette loi n'était pas suffisamment connue des membres du conseil, etc. Donc il y avait quand même quelques réticences, mais finalement tout cela est rentré dans l'ordre. Et j'ajoute que dès 1800, Bayonne deviendra partie du sous-arrondissement de Dax. Je n'insisterai pas sur le fait que Saint-Esprit, comme Bayonne, connaîtra les dures heures de la révolution montagnarde. Vous savez déjà que Saint-Esprit devient la commune Jean-Jacques Rousseau, et que sur la place Saint-Esprit s'est élevée la statue de Jean-Jacques Rousseau. Et voilà tout un discours à faire. J'ajoute que le nom de Jean-Jacques Rousseau a duré fort peu. Si je me rappelle bien des dates, je crois beaucoup, c'est d'octobre 93 à juin-juillet 95, premier départ de la réaction thermidorienne. Donc par conséquent, fort peu de temps. À ce moment-là, au temps de la Révolution, je voudrais passer la troisième ou quatrième carte pour Saint-Esprit en 1805. Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est un extrait de la carte historique de Bayonne. Alors, vous voyez qu'ici, en ce qui concerne le Bayonne du temps révolutionnaire et du temps du consulat et de l'Empire, bien, vous avez désormais le nom de fort qui est appliqué à la butte ici, avec des diverses plantations de promenades publiques ou quasi-publiques qui conduisaient à chez Tabarès, futur marquisat, et puis une autre promenade publique ici, un aménagement que l'on connaît pour ce fort, et tout ceci montrait un aménagement également de jardin, en contrebas de la grande propriété de Tabarès. Nous avons ensuite tout le temps cette même disposition de l'habitat urbain qui contourne le fort et qui se prolonge de plus en plus maintenant par le chemin dit de Saint-Étienne qui arrive à la propriété Furtado. Et ce chemin de Saint-Étienne va porter dans certaines cartes le nom de Jean d'Amour. Et si bien que rue Maubec, rue Sainte-Catherine, et ce qui sera Jean d'Amour, constitue le noyau du plus vieux Saint-Esprit. Ici ajoute cependant le noyau urbain autour de la collégiale, où l'on trouve encore à côté l'ancien hôpital qui dépend. Tandis que, ceci étant une carte historique, vous précise que l'ancien couvent des Ursulines est devenu hôpital, est devenu également dépôt de fourrage. Dépôt de fourrage, tous ces couvents ayant été nationalisés et pris en général par l'armée. Alors vous n'avez donc pas conscience de ceci, vous avez en contrebas de la citadelle la promenade, un certain temps on disait que c'était la promenade préférée des spiritains, des spiritoïdes, on parlait de terme, c'est la promenade de Sicre. Les allées de Sicre, ici en contrebas, qui tirent leur nom de l'ancien commandant d'armes de la place qui avait aménagé cette promenade, les allées de Sicre correspondaient à cet esprit, à ce qu'étaient les allées Paulmy ou les allées Boufflé à Bayonne. C'était l'exemple d'aménagement urbain du XVIIIe siècle, on remonte à la fin du XVIIIe siècle. Vous voyez également que la carte a le mérite, mais je n'ai pas le temps de m'étendre trop longtemps ici, a le mérite de montrer le parcellaire de cette ville, qui est quand même quelque peu différent du parcellaire bayonnais, beaucoup plus ancien, médiéval. Et vous avez ici une construction bien connue et rappelée par cette rue, la rue du Château. Tout simplement, c'est un grand bâtiment de Lousteau aujourd'hui, qui est appelé le Château, construit par un certain Suarez, dit l'Américain, qui avait fortune au Amérique, était revenu et avait construit ce bel immeuble qui entre tout à fait dans le paysage des rives de la Dour et que les graveurs et autres dessinateurs reprennent volontiers. Vous remarquerez aussi qu'à cette date, Révolution-Empire, eh bien nous avons du côté Saint-Esprit des chantiers de construction navale. Mais il ne faut pas oublier qu'à ces chantiers de construction navale, que je qualifierais de privés, appartenant à des constructeurs, Burluburu, Seyfourcade et autres, s'ajoutaient, mais alors vers l'aval, et la carte ne peut même pas de le voir, l'ancien arsenal de la marine, l'arsenal du roi, au pied de la citadelle. Voilà pour la présentation en 1805. On pourrait multiplier les commentaires. Vous avez ici l'indication du grand pont sur la Doue, pont Saint-Esprit, etc., comme le grand pont, avec sa comporte, ici le passage des bateaux d'amont en aval, puisque les constructions navales se faisaient en amont du pont. Et vous avez ici l'indication de l'étang du Moulin, qui porte le nom du propriétaire ancien Corrège, puis, en 1805, de Sceaux, et en amont, l'étang du Moulin de la Croix, devenu ensuite le Moulin de Boyer. Et cette inscription connaît peut-être encore le Moulin de Boyer. Tout ceci pour dire que, à partir de 1805, un important travail de remblaiement et d'urbanisation se posait pour l'extension de la ville de Saint-Esprit. Vous remarquerez que la place de Saint-Esprit porte le nom de grande place de la promenade. Elle aurait mérité qu'on lui donne le nom de, en 1795, la place Jean-Jacques Rousseau, de la commune Jean-Jacques Rousseau. Mais le nom a disparu dès 1995. Voilà pour la situation, par contre, au début du 19e siècle. Alors pour ce qui est de la ville de Saint-Esprit, à partir du 19e siècle, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu, quand même, au temps de la ville landaise, un essor démographique, certain, plus marqué même que du côté bayonnais, comme au 18e siècle. Il y a eu une activité économique à laquelle la communauté israélite apporte sa contribution. On pourrait là multiplier les exemples, ne serait-ce que ceux des notables israélites qui jouent un rôle de plus en plus important, non seulement à Saint-Esprit, par l'acquisition de grands domaines sur les alentours de Saint-Esprit, je pense à la famille Léon, à Sainte-Croix par exemple, je pense au domaine de Sainte-Croix du Bas avec les Bernals. Mais aussi, ne pas oublier qu'à partir de 1790, les Israélites ont le droit de s'installer dans la ville de Bayonne. Et dès 1805-1806, un premier recensement, il apparaît qu'il y a quelques 150 juifs installés à Bayonne, et pas des moindres sur le plan du négoce et de la banque. En ce qui concerne la ville landaise de Saint-Esprit, les relations avec la ville de Bayonne ont été toujours nécessaires, je dirais, inévitables, ne serait-ce que sur le plan portuaire et sur le plan militaire. Et dès la période de l'Empire, on voit des revendications naître aussi bien et surtout du côté de Bayonne que du côté de Saint-Esprit un peu moins, pour une réunion de Saint-Esprit à Bayonne. On pourrait en citer de nombreux exemples. L'exemple le plus connu est celui de 1836. Démarche faite par un certain Pierre Giron, président de la Chambre de commerce, et qui demande premièrement l'annexion Bayonne-Saint-Esprit, et deuxièmement une modification de la carte départementale et faire de Bayonne-Saint-Esprit la préfecture d'un nouveau département. Département avec les trois points d'appui, Bayonne au centre, Mauléon, Pays Basque, et Dax, du côté landais. Donc ce n'était plus un département basco-béarnais, mais un département basco-landais. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est irritant de voir certains prétendre que le département, le nouveau département, est revendiqué comme il a été en 1836. C'est absolument faux. En 1836, on demandait un nouveau département où Bayonne serait situé, Bayonne-Saint-Esprit, serait situé au cœur et au centre du département, dit de l'Adour. C'était le département de l'Adour. Alors toutes ces démarches donc ont eu lieu. Je pourrais ici ouvrir quand même une parenthèse très courte pour dire que ce qui montre l'importance acquise par la communauté israélite dans la vie économique, municipale de Saint-Esprit, c'est qu'il y a eu un maire appartenant à cette communauté, le maire Rodrigue. Ce n'est pas le premier maire, parce qu'il y en avait un temps de la Révolution qui était également maire, Suarez. Mais ce deuxième maire, Rodrigue, est resté maire de Bayonne de 1837 à 1843. Et il a eu le temps de faire pas mal de choses sur le plan municipal, ne serait-ce que le nouvel abattoir, dont on parlera après. J'ajoute cependant que le fait de voir le roi de, pas de France, le roi des Français, Louis-Philippe, mettre à la tête de la commune de Saint-Esprit un Israélite, Rodrigue, a soulevé quand même quelques oppositions de la part des conseillers, de certains conseillers municipaux de religion catholique. L'argument avancé étant qu'il était malséant de choisir un maire dans la minorité. Réponse de ceux qui étaient pour, Rodrigue, citoyen français, a le droit d'être maire comme tout autre catholique, citoyen français également. Cela s'est soldé quand même par une approbation de la population en faveur de Rodrigue, puisqu'il y a eu démission de 10 conseils municipaux, réélection, et ceux qui ont été réélus admettaient Rodrigue comme maire. J'ajoute d'ailleurs que Rodrigue avait été, 7 ans auparavant, pendant les 7 années qui précèdent, premier adjoint au maire d'Oussy. Donc il y a eu quand même cette difficulté rencontrée. Il n'en demeure pas moins que, par la suite, la chose est fort bien acceptée. On ne sait pas d'ailleurs dans quelles conditions exactes Rodrigue a démissionné en 1843, quelles ont été les raisons valables. Du moins, on ne les connaît pas dans les documents que j'ai consultés. J'ajouterai à ces quelques considérations, pour en finir avec la commune landaise de Saint-Esprit, qu'en 1848, la dite commune et municipalité a été menacée d'une scission. Tout simplement celle des habitants de la section rurale de Saint-Étienne, qui ont demandé à faire eux aussi une municipalité à part. Il y a eu plusieurs démarches. Et il a plus connu ce siècle de 1848 au temps de la Révolution de la Seconde République. Démarches qui ont échoué. Mais qui se justifiait, je dirais, de façon avec assez de recul, que quand même cela se justifiait assez parce qu'il y avait l'opposition entre le secteur rural, Saint-Étienne, et le secteur urbain, Saint-Esprit. Et que cette opposition va se manifester dès le temps de la Seconde République sur le plan politique. Saint-Étienne, on le sait bien, étant plus conservateur que ne l'étaient les habitants de la ville, plus, entre guillemets, républicains, révolutionnaires à ce moment-là. Mais en fait, cela comprend les démarches faites. Un autre fait permet de le comprendre également, à savoir que Saint-Étienne avait gardé très longtemps la fonction curiale, était l'église de la paroisse, en attendant que Saint-Esprit devienne l'église de la paroisse Saint-Esprit. Ceci au milieu du XIXe siècle. Bien, je voudrais passer maintenant une dernière, enfin pas deux cartes, une autre carte, montrant l'évolution de ce quartier de Saint-Esprit au temps du Second Empire. Saint-Esprit a cessé d'être ville landaise en 1857. Donc ce que l'on appelle parfois l'anomalie administrative de la ville a duré de 90 à 1857, 67 ans, deux tiers de siècle. Pourquoi met-on fin en 57 à la ville de Saint-Esprit et en fait un quartier? Bien, la circonstance la plus favorable a été à ce moment-là l'installation sur la rive nord de l'Adour de la gare de la Compagnie du Midi, dite de Bayonne. Alors Bayonne, voyant sa gare s'installer sur la rive nord, a demandé plus que jamais évidemment l'annexion du quartier Saint-Esprit où se trouvait sa gare, la gare de Bayonne. Et cela est arrivé en 57. Je n'ai pas le temps d'entendre beaucoup de détails, mais je dirais simplement que l'annexion a été voulue par Bayonne, par le gouvernement, par la Compagnie du Midi, qu'il y a eu quelques oppositions du côté Saint-Esprit pour des raisons d'ordre, je dirais, de localisme, de chauvinisme local parfois, pour des raisons, disait-on aussi, d'abandon d'une certaine considération sociale pour ceux qui faisaient partie et du conseil municipal et surtout de la mairie, opposition du maire évidemment, opposition de ceux qui à ce moment-là mettaient en avant la construction récente de l'hôtel de ville de Saint-Esprit, qui venait d'être achevé en 54, dans son joli décor, etc., et près de la collégiale, nous verrons après, et qui par conséquent, trois ans après, n'a plus sa raison d'être. Il est évident qu'on pourrait ajouter ici beaucoup de choses, je dirais simplement que la construction de l'hôtel de ville, et ça les spirituels le mettaient en avant, n'avait coûté que le dixième de ce qu'avait coûté la construction de l'hôtel de ville de Bayonne en 1843. Ce qui montrait, disaient les spiritoïs, la gestion plus sérieuse du côté Saint-Esprit que Bayonne et par conséquent la volonté de ne pas faire partie de Bayonne. Des arguments de ce genre étaient avancés à ce moment-là. Mais la volonté évidemment du gouvernement l'a emporté. Et 1857, on ne parle plus d'une seule ville, par conséquent, Bayonne avait son quartier de Saint-Esprit, et désormais, Bayonne est la ville aux trois quartiers essentiellement, Petit Bayonne, Grand Bayonne et Saint-Esprit. Alors, si je montre cette carte, c'est d'une part pour montrer que au Saint-Esprit ancien, ici, rue Moubec, rue Sainte-Catherine et Jean Daru, ancien chemin Bergeret, eh bien, à ce très vieux, à ce plus vieux Saint-Esprit, et avec ses constructions de la place, vient s'ajouter maintenant le nouveau et grand Saint-Esprit du Second Temple, qui est bien différent sur le plan du tracé des rues, évidemment, de l'ancien vieux Saint-Esprit. Vous avez ce tracé orthogonal des rues, qui a été fixé avant l'urbanisation, et c'est autour de ce tracé des rues, et deuxièmement, du remblaiement des anciens marais, ici le marais moyen en particulier, que va se faire l'urbanisation du Grand Saint-Esprit. Alors il faut évidemment lire dans la presse bayonnaise de 1856-57, que ce soit le messager, que ce soit le courrier de Bayonne, tout ce qui est dit sur ce que la ville de Bayonne doit attendre du Grand Saint-Esprit. C'est là, disait-on, que se situe l'avenir industriel et l'avenir démographique d'une ville par ailleurs étouffée par ses remparts, etc., etc. On attendait beaucoup de ce vaste espace de 20 hectares offert à l'urbanisation. Nous verrons malheureusement que cette urbanisation va se faire lentement, qu'il faudra, après, plus de demi-siècle pour la réaliser entièrement, complètement. Alors on pourrait ici, pour ceux qui connaissent Saint-Esprit, attirer l'attention sur deux faits essentiels, je me limite à ça, en ce qui concerne la place Saint-Esprit. Elle reste toujours la place Boudepont, c'est un rectangle, avec sa fontaine, l'eau potable. La carte de 1667, 4 ans auparavant, la fontaine a été tarie lors de la construction de la voie ferrée sous la rue Maubec, Et ça a été évidemment une catastrophe pour les habitants de Saint-Esprit et de Bayonne qui tiraient leur eau potable, la meilleure eau potable venait de la fontaine de Saint-Esprit. Vous avez ici la Brevoie, voilà pour la place. Vous remarquerez que du côté de l'extension urbaine, eh bien la place est fermée. On a représenté ici une petite rue, ruelle, étroite. On a oublié d'y marquer d'ailleurs une voûte qui se trouvait là et qui fermait presque complètement la place Saint-Esprit. Et c'est à partir de cette petite rue ou ruelle de Moulin, suivie de la rue plus large du Moulin, c'est sur ce tracé que va être repris et établi le large boulevard Alsace-Lorraine, à partir de la rue du Moulin, rue d'une part et rue du Moulin, et après le remblaiement des marais de Boyer. Vous remarquerez sur la carte deuxièmement l'importance prise par les installations ferroviaires. La gare du Midi s'installe ici et vous avez les emplacements, voilà pour le tracé. On n'a pas marqué sur la carte si la gare des voyageurs se trouvait ici. La gare de marchandises là et la cour des pauvres voyageurs, accueillir la cour d'attente, se trouvaient par conséquent ici, alors que les habitations de la rue Maubec arrivaient jusqu'ici près de la cour de la gare, que la collégiale avait ici également un. Attendez un petit peu, c'est ici, oui. La rue des Grandvieux, c'est là. Un cimetière qui prenait de l'espace. Bref, il a fallu très vite penser à agrandir le terrain réservé à la gare. On s'était compte de prendre sur les terrains de l'ancien couvent de Saint-Ursule, de l'ancien cimetière militaire, ce qui fait qu'on a trouvé pas mal d'ossements et dans le couvent et dans le cimetière militaire, et tout ceci en contrebas de la citadelle. C'est la troisième remarque que j'ai à faire, c'est que cette carte, établie en 1867 sur votre empire, est destinée à montrer l'intérêt que présentait la construction d'une nouvelle église à Saint-Esprit. La collégiale paraissant forfaitiste, trop insuffisante, disait-on, pour les fidèles du temps, et le grand débat a été ouvert dès le Second Empire, où faut-il restaurer l'ancienne collégiale sur place, en essayant de l'agrandir le plus possible, ou faut-il la construire ailleurs? Le projet, qui est allé le plus loin parmi les projets, a été celui de la construction d'une nouvelle église, marquée par une croix ici, sur l'emplacement de la place de la course, où se trouve actuellement l'école Jules Ferry. Et la carte d'ailleurs est un peu faite pour voir que ces traits, ces pointillés partent à partir de l'église vers cette courbe tracée pour montrer que ici, en cette position, l'église avait une situation beaucoup plus centrale qu'elle ne l'était à la collégiale. Alors il y a là tout un débat ouvert pour savoir où construire la nouvelle église, si nouvelle église, il y avait lieu. Je me contente de dire à cet égard que parmi les projets présentés, il n'y a pas concernant l'église de la place de la course, projet qui va être abandonné assez tardivement après la Première Guerre mondiale, mais il y a eu aussi un projet de construction d'église nouvelle sur le fort, avec une flèche, et l'on voyait déjà se profiler à l'horizon de Saint-Esprit des flèches semblables à celles de la cathédrale sur la butte de Notre-Dame. Tout ceci a donné lieu à une littérature abondante, mais tous ces projets n'ont pas été réalisés, et on s'en est tenu finalement à la restauration sur place de la collégiale, qui a rencontré pas mal de difficultés par suite de plans d'alignement. Vous voyez que la collégiale est entourée à ce moment-là par deux rues étroites, la rue des Grandvieux d'un côté, la rue Doyenné. Il était très difficile, évidemment, de restaurer et d'agrandir en même temps l'espace réservé aux fidèles. On s'est rabattu sur la disparition du cimetière et sur l'agrandissement du côté du porche. Voilà par conséquent pour ce qui est du nouveau Saint-Esprit, nouveau et grand Saint-Esprit. Mais la carte qui va suivre, et qui date de 1883 après 1867, bon, 1883, effectivement, alors il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'urbanisation de ces terres, de cet esprit, de cet espace, elle se fait bien lentement. Et nous sommes à quelques 18 ans après la naissance du grand Saint-Esprit, et vous voyez que l'occupation du sol est tout à fait incomplète à partir du calendrier de rue établi. Mais cependant, c'est dans ce grand Saint-Esprit, mais le plus loin possible, qu'on a établi cet urbanisme que certains appellent l'urbanisme de répulsion, que sont l'abattoir, le nouvel abattoir, et deuxièmement, la prison, la future Villa Chagrin, tout à fait à l'extrémité de l'espace du grand Saint-Esprit. Vous voyez que cet espace est délimité, j'aurais dû le dire avant peut-être, par le tracé de la voie ferrée sur remblai. Comme dans pas mal de villes, le remblai du chemin de fer est venu apporter un élément structurant dans l'urbanisation de la cité. C'est le cas ici pour Saint-Esprit. On a même pensé au début établir ici un boulevard dit du chemin de fer, qui n'a pas été fait. Bon, mais voyez par conséquent ici que nous avons... Alors, la toponymie d'ailleurs, qui est quelque peu en retard, vous montre qu'ici, la rue demeure rue de l'abattoir, et ce qui n'est pas marqué mais qui existait, on ne sait pas ailleurs, c'était ici, boulevard de l'église, pour la future église qui se trouvait sur la place de la Course. Bon, ceci était destiné à montrer la relative lenteur de l'urbanisation. La carte qui suit confirme la lenteur de l'urbanisation, puisqu'il s'agit de voir ici, bon, elle se poursuit, elle est quand même relativement régulière, elle se poursuit, mais il y a quand même des espaces absolument qui ne sont pas encore construits, et par conséquent, vous avez là encore une toponymie, il n'y avait pas de commission de toponymie à ce moment-là, il y avait une commission des archives, une commission de dénomination des rues, et bien on considère qu'elle était... Il y a assez de retard sur la réalité des choses, puisque vous avez toujours ici la rue de l'abattoir, qui était l'abattoir construit par le maire Rodrigue en 1843, alors qu'ici apparaît le boulevard de l'abattoir, le nouvel abattoir. Et ceci crée une certaine confusion qui disparaît dans les années suivantes. C'est 1901, ceci. Bon, je ne pense pas avoir le temps d'ajouter d'autres commentaires en ce qui concerne cette carte de 1901. Je préfère terminer par la carte qui suit, 1925, après la Première Guerre mondiale, où il est curieux de constater qu'il y a encore quelques lacunes. 1925, plus d'un demi-siècle après, vous avez quelques lacunes de l'urbanisation aux extrémités du secteur de Saint-Esprit, du Grand Saint-Esprit. Ici, vous avez tout un espace qui demeure à construire, et c'est là que sera construit à Baltoni, face à la prison, en 1930 seulement. Ceci date de 1925. Bon. Vous avez également ici quelques lacunes dans le tissu urbain, ainsi que dans cette partie de Jean Damon. Tout ceci pour montrer que les espoirs qui ont été manifestés en 1857-1860 n'ont pas été particulièrement réalisés sur le plan de l'urbanisation. Alors, là aussi, vous savez toujours par conséquent ici le vieux Saint-Esprit et puis ici le grand Saint-Esprit du Second Empire. Car le chanoine de Lamarque parle du vieux Saint-Esprit dans son livre, il s'agit du Saint-Esprit du plus vieux Saint-Esprit, mais également du Saint-Esprit du Second Empire. Et quand je parle historiquement du vieux Saint-Esprit, c'est uniquement rue Maubert, rue Sainte-Catherine, le boulevard Jean Damon, et ici, autour, l'emplacement de la place de la République. Bon, voilà pour... S'il y a des questions posées, vous les poserez par la suite. On n'a qu'à retenir un petit peu certains faits qui vous paraissent surprenants. J'ai tout à peine le temps de terminer en disant que finalement, on peut passer quand même à la dernière carte, dernier plan, qui montre que le Saint-Esprit va être débordé de toutes parts à notre fin du XXe siècle, phagocyté, on dit certains, mais je ne reprends pas le terme. Et vous avez là une vue qui montre le grand fait nouveau de notre fin XXe siècle, c'est évidemment le franchissement de la Dour, du pont Grenet au pont, je ne sais pas si au pont autoroutier, et ce franchissement, évidemment, amène le Saint-Esprit à être englobé dans un tissu urbain qui, certes, offre encore des possibilités d'urbanisation, d'une urbanisation qui se manifeste aussi par l'installation de zones industrielles, de manifestations par des centres commerciaux et, à Saint-Étienne, comme vous le savez, par les ensembles des hauts de Sainte-Croix. Ce qui fait que lorsque, à la fin du siècle, dans les années 80, on étudiait le problème de l'urbanisation de Saint-Esprit, les données nouvelles de l'urbanisation de Saint-Esprit ont posé essentiellement le problème des relations et des communications avec l'ensemble des hauts de Sainte-Croix, et deuxièmement aussi, ont posé le problème de l'aménagement du front urbain de Saint-Esprit le long de la Dour, un aménagement que l'on qualifiait d'un peu trop anarchique. Il suffit de voir ces immeubles hauts et bas qui se succèdent le long de la Dour, auxquels on songe toujours d'ailleurs dans les programmes d'aménagement urbain. Je pense que j'ai dû oublier des choses importantes dans ce que j'ai dit, mais je voulais surtout vous montrer l'évolution dans son ensemble, les grands traits de cette évolution, et je m'arrête là.
Le quartier Saint-Esprit à Bayonne, du bourg à la ville, de la ville au quartier. Vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence de Pierre Hourmat de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, conférence enregistrée dans les années 2000 dans le cadre de l'Université du temps libre de Bayonne.